Ben c'est parce que vous êtes sauvés. Jésus vous a fait passer de la mort à la vie. Amen. Imaginez-vous un instant. Hein, si il n'y avait pas Jésus dans notre vie, eh ben, ça serait différent. Hein. On ne serait pas là déjà ce matin, on est d'accord? Ensuite, déjà moi, s'il n'y avait pas Jésus dans la vie de Christiane et de moi, on ne serait peut-être même pas connus. Ah ouais. C'est parce qu'on s'est rencontrés dans une église, dans une réunion. Je suis venu d'un autre pays. Et voilà, comme dimanche dernier, j'ai visé une belle blonde et les choses se sont faites d'une façon extraordinaire. Mais parce que Jésus était au centre de cette affaire, on a chanté. Hein. Puis je vais continuer dans cette direction que Jésus est le centre de notre vie. Donc nous allons nous centrer sur la personne de Jésus. Amen. Dimanche dernier, on a passé de bons moments ensemble à Waterloo pour ceux qui sont venus au culte commun. Et je vous ai partagé donc l'histoire de Moïse. Vous vous souvenez? Donc Moïse qui était appelé par Dieu pour libérer le peuple d'Israël d'Égypte. L'Israël, donc vous vous souvenez l'histoire depuis Jacob, etc. D'accord, ils se sont retrouvés juste à quelques personnes en Égypte. Et puis, pendant des années, la famille a grandi. La famille a grandi et le peuple d'Israël se trouvait donc en Égypte pendant pas mal d'années. Alors, est-ce que vous savez combien d'années? Alors, balancez un chiffre, plus même on est entre nous. 400? 430? Ensuite, 400? 430. Exode 12, chapitre 12, vous vérifiez. Et donc, 430 ans, ça fait beaucoup de générations, on est d'accord? Et puis ensuite, Dieu appelle Moïse qui ne parlait pas bien. Moïse qui avait difficulté à s'exprimer. Et Dieu donc a appelé Moïse pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Parce que les autorités, les gouvernements succédaient. On a oublié Joseph, on a oublié que c'était un peuple de Dieu, on a oublié tout ça. Et puis finalement, le peuple de Dieu est devenu un peuple en esclavage. C'était des esclaves en Égypte, d'accord? Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ça a bougé parce que les gens criaient vers Dieu. Et il est écrit que le cri du peuple d'Israël est monté au ciel et il a touché le cœur de Dieu. Et Dieu s'est souvenu que son peuple se trouvait en esclavage. Et il a décidé de bouger. Vous comprenez? Quand on prie, quand on se tourne vers Dieu, Dieu fait des miracles. Amen. Donc, déjà là, on voit ça déjà ici. Et ensuite, donc, Moïse, voilà, il y a toute une histoire, mais j'essaye d'abréger tout ça, je vais prendre juste des moments importants, clés dans cette histoire. Donc, Moïse, il est sorti d'Égypte avec environ 600 000 hommes. Environ 600 000. C'était peut-être 550, peut-être 650. Les théologiens disent que c'était plutôt 650, mais la Bible, Exode 12, nous dit 600 000 hommes. Ça veut dire qu'avec les épouses, bah, ça a doublé, on est d'accord? Et puis avec les enfants, ça a doublé encore. Donc 600, 1,2 million 200, puis bah, 3, 4 millions de personnes. Et vous vous souvenez cette histoire, donc le peuple d'Israël se trouvait donc dans un désert. Et il n'y avait pas d'eau, hein, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas à boire. Et puis finalement, on se tourne vers Moïse, parce que c'est lui qui était leader, hein, c'est lui qui était médiateur quelque part entre Dieu et ce 4 millions d'âmes, on dit plus ou moins. Hein. On ne va pas se disputer pour quelques chiffres. C'est une estimation, d'accord? Et ils se sont tournés vers Moïse pour lui dire, nous n'avons pas de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qui se passe? Ah ben on meurt, c'est ce qu'on a dit le dimanche dernier, mais c'est une réalité. Au bout de troisième jour, je pense que vraiment, on nous dit que ça devient sérieux. Hein. C'est ça. Hein. Et puis ensuite, il n'y a pas d'eau, c'est la mort. Donc, la vie, l'eau symbolise quoi? La vie. Et vous vous souvenez cette histoire? Moïse, Dieu dit à Moïse, mais pourquoi vous pleurez, vous criez, pourquoi vous posez des questions? Enfin, c'est Dieu qui a dit finalement à Moïse, pourquoi ça se passe comme ça? Voilà, tu frappes le rocher, d'accord? Et puis l'eau jaillira. Alors vous voyez, le rocher a été frappé par Moïse. Et l'eau a jailli, c'est-à-dire la vie a jailli. Le rocher, le rocher a coulé, la vie, l'eau, la vie. 4 millions de personnes. Là, j'observais la Sainte-Seine et ce matin, je me suis tout de suite dit, moi je suis toujours pratique, j'essaye de gagner du temps partout. Et je me suis dit, à la prochaine fois, si on peut mettre deux tables, ben, on va gagner 5 minutes et ça sera plus pratique, vous comprenez? Parce que, imaginez-vous, si on double et ça va durer un quart d'heure et puis après ça va doubler, cette salle elle sera pleine bientôt. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, mettez un deuxième, mettez un troisième pour gagner du temps. Vous comprenez? Mais 4 millions de personnes qui s'approchent pour boire, même s'il y avait des gens qui allaient peut-être avec des seaux à l'époque, je ne savais, bon, il y avait quand même quelque chose, pour prendre pour les autres, mais 4 millions de personnes qui venaient à la source, imaginez-vous un peu, 4 millions, 4 fois, 3 fois agglomération lilloise, 3 fois. Ça fait beaucoup de monde, non? Bon, mais quelques-uns sont plus nombreux, hein, donc... Soyez pas difficile avec moi, mais c'est plus ou moins ça. Et voilà, ce rocher était une illustration de qui? De la personne de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, nous avons chanté centré sur qui? C'est pas juste sur la prophète, sur un homme de Dieu, même si Jésus était aussi prophète. Mais en même temps, l'essentiel, c'est que Jésus... Tout le monde dit Jésus était fils de Dieu, mais plus que ça, Jésus était Dieu lui-même. C'est un mystère, le fils de Dieu venu sur cette terre. Donc, fixez nos yeux sur la personne de Jésus. Amen. Et tous ceux qui viennent vers Jésus, ben voilà, peuvent boire de l'eau, peuvent bénéficier de la vie. Amen. On va vers Jésus et on puise la vie, plus que ça, la vie éternelle dans la présence de Jésus. Alléluia. C'est beau ça, non? À moi, quand je réfléchis et quand je parle, je lis la parole de Dieu, ça me donne bon courage, ça me donne la force. Parce que c'est vrai, la vie n'est pas toujours facile, il y a des combats, il y a des maladies qui nous guette, il y a des défis par-ci, par-là. Mais chaque fois quand on fixe nos yeux sur Jésus, ah ben, ça change, puisque là, nous buvons la vie, l'encouragement, le feu, le courage pour aller plus loin et tout ça. Amen. Et c'est beau, ça. Alors, on va juste parler un petit peu aujourd'hui d'un homme qui était... religieux, si on veut dire, un homme qui était honnête, un homme qui aimait Dieu, un homme qui priait beaucoup, un homme qui aidait les pauvres, mais seulement il ne connaissait pas Jésus. Il lui manquait quelque chose. Alors, pour les anciens chrétiens, vous connaissez quelqu'un comme ça dans le Nouveau Testament ? Zachée ? Bon, pas vraiment. Corneille. Les Actes des Apôtres, chapitre 10. On va parler de lui, de Corneille aujourd'hui. D'accord ? Voilà. Je garde la montre pour maîtriser mon temps. Donc, les Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons lire juste quelques extraits parce que c'est très long. Alors, pour ceux qui découvrent, qui ne connaissent pas bien cette histoire, vous vous dites, j'ai un devoir aujourd'hui, je rentre chez moi. Si je n'ai pas le temps tout de suite, peut-être ce soir, et je lis les Actes des Apôtres, chapitre 10. D'accord ? Donc, comme ça, vous allez encore comprendre mieux et plus de détails parce que ça fait long. Hein, d'accord ? Et j'ai demandé à Jacques de nous lire, parce que sa voix porte bien. Alors, est-ce que c'est branché ? Oui, c'est ça. Hein. Voilà, donc tout ce qui va passer, Jacques, si tu peux nous lire. Donc, on parle de les Actes des Apôtres, chapitre 10, le premier verset à 4. Ensuite, on va lire 24 à 27, c'est bon, là-bas. Ensuite, 42 à 48, voilà. Trois extraits juste de ce chapitre. Et puis, si vous ne comprenez pas très bien ce chapitre, vous avez compris ce qu'il faut faire aujourd'hui.
Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit : Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux.
Voilà, merci Jacques, c'était vraiment bien. Très bien, donc vous avez compris, il s'agit de Corneille. Corneille, et puis on dit un centenier. Alors ça veut dire quoi, Corneille centenier ? Ça veut dire que cet homme était un chef militaire et qui était responsable, qui dirigeait donc un groupe de 100 soldats. Centurion, ça veut dire ça. Donc, dans une armée romaine. Ce n'était pas du tout juif, mais voilà. Et donc, vous comprenez, on a affaire avec quelqu'un, d'accord ? Un homme intelligent, un dirigeant, un homme militaire, discipliné, parce que les militaires, ce sont des gens très, très disciplinés, hein, c'est ça. Hein. Et en même temps, un homme croyant. Est-ce que vous avez compris que c'est un homme croyant, est-ce qu'il croyait en Dieu ? Ben, vous avez compris que Cornelius était vraiment un croyant ? Vraiment, vous avez compris ? Et il était croyant, un croyant en Dieu. Et en même temps, le fait qu'il croyait en Dieu, ben, voilà, il voulait se distinguer quelque part de son sacrifice, par la prière, il priait à Dieu comme il savait. Et surtout, il aidait les pauvres, hein. Il donnait aux pauvres, il soutenait les pauvres parce qu'il était touché. Et la Bible nous dit qu'il priait toujours, hein, il priait souvent, il priait. Donc je pense que pour un homme comme ça, ça suffit, non ? Qu'est-ce que vous pensez ? Ben, c'est bon, hein, qu'est-ce qu'il faut plus pour être sauvé ? Ben, tout est bon, non ? Ben, il ne faut pas plus. Hein. Ah ben, il lui manque quelque chose. Et puis Dieu commence à... Enfin, il a pensé à Corneille. Et pourquoi Dieu a pris au compte Corneille ? Parce que la Bible dit que, donc si on peut projeter le verset 4, juste pour rappeler un peu, le verset 4 nous dit, les regards fixés, donc c'était sur Pierre, hein, saisi de foi, il répondit, hein, voilà, l'ange, voilà ce que je voulais retenir. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Vous avez compris ? Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tous nos engagements, tout est là, tout est clair devant Dieu. Mais là, Corneille était bien attentionné, d'accord ? Il pensait qu'en faisant ça, tout va bien. Mais Dieu, il a vu les efforts fournis par Corneille vis-à-vis de sa spiritualité, vis-à-vis de Dieu. Et Dieu, il s'est dit, je ne vais pas laisser mon ami Corneille comme ça. Il lui manque quelque chose. Il a beaucoup de connaissances, il fait beaucoup de choses, mais finalement, ce n'est pas ça qui sauve. On est d'accord ? Ce n'est pas ça qui sauve. Même ça, c'est passé. Alors voilà, donc, Dieu envoie un ange qui parle à Pierre, il dit, envoie quelqu'un, pardon, l'ange qui s'adresse à Corneille, et puis il dit à Corneille, envoie quelqu'un là, là, là-bas, ils vont rencontrer Pierre, et dit à Pierre, il faut que tu viennes le plus vite possible pour expliquer le manquement, ce qui manquait chez Corneille. Et puis, quand vous allez lire, pour ceux qui ne connaissent pas bien cette histoire à la maison, vous avez compris tous ces détails-là. Donc, Pierre arrive, et voilà, il voit du monde. Il voit du monde. Donc, Corneille, il a compris qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dessus. Il s'est dit, c'est bien, moi, je vais bénéficier, Dieu est puissant, il croyait, mais en même temps, il pensait à qui ? Sa famille, ses amis. Pierre arrive, il y a du monde. Il y a du monde, mais il n'y a pas de Jésus. Il n'y avait pas de Jésus, hein. Allô ? Mais Jésus est venu avec Pierre. Jésus est venu avec Pierre. Et donc, nous avons vu plus loin que... donc ça, on peut revoir le verset... le verset 24-25, là. Donc, Pierre qui arrive chez Corneille, il y avait beaucoup de personnes et tout ça. Nous avons déjà lu tout ça. Et puis ensuite, Pierre, commence à parler, commence à expliquer, commence à prêcher quoi? L'évangile. Il est venu avec la vie. Il est venu communiquer la vie. Il manquait quelque chose qui est plus important dans la vie d'un homme et d'une femme, c'est Jésus. Centré sur Jésus avant tout. Amen. Voilà, puis ça correspond très bien. Regardez, donc on va reprendre à nouveau les versets 42 et 43 qui nous dit, et Jésus nous a ordonné, donc ça c'est Pierre qui parlait déjà depuis un moment à cette petite assemblée chez Corneille. Et regardez ce qu'il dit, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit, est-ce que Dieu a divisé le peuple dans le monde, les uns c'est ça, les autres, pour les uns c'est une religion telle et telle, pour d'autres, non. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Puisque nous avons tous péché. Nous sommes tous condamnés à la mort éternelle. Et quiconque croit en lui. C'est ça que Pierre a commencé à expliquer à cette petite assemblée-là, mais il y avait quand même du monde, que voilà, et vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin, Corneille, tu as besoin de te réconcilier avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est bien tout ce que tu as fait. C'est pour ça que Dieu t'a vu. Mais le salut est par le nom de Jésus. Amen. On ne peut pas contourner la personne de Jésus. Amen. Donc, reçois par pardon, enfin, par son nom, le pardon de péché. Et quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient. Et puis plus loin, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont prié aux langues. Alors, quand on parle de le Saint-Esprit, c'est quelque chose de surnaturel. On va parler avec différentes sensibilités des chrétiens, et quand on va parler du Saint-Esprit, chacun aura sa version et sa façon de voir les choses, sa compréhension. Voilà, vous allez parler avec un curé. Voilà, d'ailleurs, il y a pas mal de curés aujourd'hui qui sont aussi charismatiques, qui comprennent qu'il y a plus que juste dans la tête. Et puis tout le monde va dire, oui, j'ai reçu le Saint-Esprit, oui, je suis le baptisé du Saint-Esprit, oui, j'ai le Saint-Esprit, oui, je prophétise, oui, j'ai... voilà tout ça. Chacun à sa façon. Mais nous ici, nous sommes des charismatiques. On n'est pas tout le monde. Nous ici, on est des charismatiques. Alors, charismatique, ça veut dire quoi? La parole est manifestée par les signes et les prodiges. Et parler aux langues, ça fait partie des signes. Prophétiser, je peux parler, mais je suis invité à prophétiser. Prophétiser, c'est pas ce que je pense, mais prophétiser, c'est que je reçois de Dieu par le Saint-Esprit et je communique par le Saint-Esprit. C'est ça. Nous, ici, c'est ça. Voilà. Et je respecte tous ceux qui disent autre chose parce qu'on doit se respecter. Amen. On doit les aimer. Et ça ne va pas changer parce qu'on va, être frustré sur les autres ou juger quelqu'un ou critiquer. Non, pas du tout. Alors, si vous entendez prier quelqu'un aux langues, si vous entendez quelqu'un chanter aux langues, voilà, ne soyez pas frustré, mais dites, j'aimerais faire comme lui. Ah, c'est aussi pour moi. Et ça nous aide, ça nous donne la force. Quand on prie aux langues, la Bible dit, nous nous édifions. Amen. Donc, il y a des choses surnaturelles que nous sommes en train de vivre. Et là, voilà, le Saint-Esprit est descendu. Et pourquoi ? Parce que le parler aux langues, c'était le signe du baptême du Saint-Esprit, le signe du baptême. Et ça, nous vivons tout à fait naturellement. Ça fait partie de notre vie. D'accord ? Donc, vous voyez, le Saint-Esprit est tombé. Cette parole a été confirmée par les signes. Donc, tout est fait. Voilà, l'essentiel, c'est centré sur la personne de Jésus. Alors, vous voyez que finalement, nous sommes tous de la même nature. Corneille, c'était un homme important. Il avait besoin de Jésus, comme c'est lui qui n'avait rien. Nous sommes tous de la même nature. Dieu nous voit, Dieu voit tout. Il connaît nos joies et aussi nos épreuves. Amen. Est-ce qu'il connaît ? Il connaît tes incertitudes. Il connaît tes combats. Combien de fois je me retrouve dans des situations où je médite la parole de Dieu, je ne comprends pas certaines choses. Parce que ça ne se passe pas comme je voudrais, comme j'aimerais que ça se passe, vous comprenez? C'est le combat. Mais finalement, Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît nos cœurs. Si vous êtes enflammé pour Dieu, vous aimez Dieu, et s'il y a quelque chose qui vous manque, il nous vous envoie la révélation. Il vous envoie un ange. Amen. Qui vous guidera, qui vous conduira, parce que Dieu voit nos prières, Dieu voit notre courage, Dieu voit notre détermination. Il connaît nos joies que nous expérimentons, mais aussi nos épreuves. Et sachez que les nouveaux, quand je dis les nouveaux, les débutants peut-être, comment je peux m'exprimer, ceux qui commencent il n'y a pas longtemps, depuis quelques mois, depuis un an, depuis deux ans, voilà, il y a tellement de choses devant vous que ce n'est pas clair. Mais nous, les anciens, quand je dis les anciens, c'est ceux qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion. Nous, les anciens, nous avons tous besoin de Jésus. Et Dominique, tu as besoin aussi. Toi, tu es né là-dedans, toi. Hein. Tu es l'huile là-dedans. Hein. Ça part comme moi. Mais nous avons aussi besoin, tous ensemble. Nous sommes tous de la même nature, amen. Et nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Voilà, nous avons tous besoin d'aller vers le rocher hein, qui était frappé, qui était crucifié, que la Sainte-Seine ce matin nous rappelait que Jésus a vraiment donné sa vie sous la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous, d'accord? Voilà. Mais nous avons tous besoin de se tourner vers ce Jésus qui est la source de bénédiction. C'est rocher, et vers lui. On ne peut pas contourner Jésus. Alors, ensuite, vous avez compris que l'évangile est la solution, puisque Pierre est arrivé avec quoi ? Avec l'évangile, avec un message, avec le message. Est-ce que tu peux revenir sur ce verset qui nous dit « Dieu nous a ordonné », donc ça c'était le verset 42, 43 peut-être ? 42. Dieu, donc Pierre lui-même, il dit que il nous a ordonné. J'aimerais m'arrêter un petit peu là. Alors, et Jésus, amen, Jésus, donc vous voyez la personne de Jésus, lui, nous a ordonné de prêcher. Donc, qui disait ça ? Pierre, hein ? Pierre, le disciple de Pierre, l'apôtre, qui dit. Jésus nous a ordonné. Alors, il n'est pas écrit « Jésus nous a conseillé ». Jésus ne nous a pas dit bah, « si vous voulez, bah, prêchez l'évangile ». Jésus n'a pas dit bah, « faites quand même un petit effort, hein, Antonia, bon, écoute, une fois de temps en temps, parle de Jésus ». Allô? Jésus nous a ordonné. Tu penses que toi et moi, nous sommes concernés par ces versets? Oui! Pierre était concerné et nous, au travers de tous ces siècles-là, les chrétiens, nous sommes concernés par ce verset qui nous dit « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. » De prêcher au peuple. Nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Voilà, donc, c'est un ordre. Jésus nous a ordonné. Pourquoi? Parce que derrière ce message, si on ne prêche pas, derrière il y a la mort. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Un rocher ne nous donne pas de l'eau. Amen. Alors, vous voyez, Dieu nous a ordonné de prêcher l'évangile. Donc, l'évangile est la solution pour tous les défis, pour tous les problèmes. Que ce soit pour le monde, que ce soit pour ceux qui commencent là la vie spirituelle, ou pour ceux qui ont déjà 40 ans, enfin 20 ans ou 40 ans de conversion. Amen. L'évangile est la solution. Donc, par l'évangile, nous sommes sauvés, donc le salut est prêché, la libération, nous prêchons la libération par les noms de Jésus. Il y a des liens, donc dernièrement, il y a la prière pour l'alcoolisme, pour le tabac, pour des liens dans les passés, etc. Voilà, parce que Jésus est celui qui libère. Amen. C'est en son nom que nous pouvons voir des gens libérés, guéris, etc. Donc la libération. Et en même temps, par les noms de Jésus, nous pouvons avoir la certitude. Ça nous aide. Vous comprenez? On n'est pas chrétien juste pour vivre mieux, pour gagner 100 euros de plus. Voilà. Même si on est béni dans ce domaine. On est d'accord, hein? On est d'accord. On est béni là aussi. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Et aussi la certitude. Ce n'est pas peut-être. On verra. Non. Oui, je suis sauvé. Amen. C'est ça. Et puis, troisième point est aussi important. Nous avons la solution pour le monde en nous. Jésus est en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les rochers est en moi. Le rocher a été déjà frappé sur la croix. Et ben voilà, la source des bénédictions de la vie est en moi, parce que Jésus est en moi, c'est lui qui est la source des bénédictions. Et la Bible nous ordonne d'annoncer la vie. Donc, voilà, nous avons la puissance de l'Évangile. La puissance de l'Évangile. L'Évangile, c'est Jésus, le rocher en nous, de qui coule la vie éternelle. Amen. Voilà, donc, par le même nom de Jésus, nous avons tous ces défis autour de nous. On parle de l'évangélisation. Ah ben, nous croyons que le groupe d'évangélisation est là-bas, tous les deux samedis. Et là, j'ai entendu les jeunes qui se mobilisent. Enfin, c'était peut-être juste un petit rêve, mais j'espère que ça ne va pas durer longtemps. Que les jeunes veulent aussi faire une équipe. Ce n'est pas encore. Ah ben, moi, j'attends pas. Les pantoufles, j'ai enlevé, là. Bon, ça, c'est, on rêve. Il y a quelques A. Bon, je vais arrondir ça un petit peu. Parce que moi, quand on me parle, ben, on y va. Ce n'est pas juste parler. Puis, non, il faut aller, il faut aller. Là. Chaque jour, il y a des morts autour de nous. Il y a des gens qui sont sans Dieu. Il y a des souffrances. Quand vous êtes dans la rue, voilà, quand je regarde les murs, voilà, moi, je suis comme ça, vous comprenez. Je vois ces fenêtres, moi, je dis, derrière ces fenêtres, il y a des souffrances. Voilà, il y a des drames, il y a des problèmes. Mais l'Église est une solution pour eux. Amen. Alors, quand on parle du groupe de l'évangélisation. Prions pour ça, parce que c'est là que nous libérons quoi ? La vie. Nous libérons la vie. Et quand les gens reçoivent la vie, reçoivent la confirmation, le Saint-Esprit peut tomber à tout moment sur lui. Ce sont des choses surnaturelles que nous pouvons vivre tout simplement naturellement. Amen. Vous savez le plus grand miracle. Je vais vous montrer le plus grand miracle. Est-ce que tu peux venir avec moi ? Pas toi. Et elle est le symbole de beaucoup de jeunes. Elle est jeune, hein ? Elle est jeune. Elle a été contactée ici à la braderie par une jeune, c'est ça. Et puis elle est musulmane et elle dit Jésus, tous ces chrétiens, ça ne veut rien dire pour moi. D'accord ? Regardez la puissance de Jésus. Donc, vous comprenez, vous vous souvenez, il y a quelques semaines à Waterloo, elle a dit oui. Elle a dit oui. C'est toujours oui. Hein. Et elle est toujours là. Mais imaginez-vous ce qui se passe dans sa petite tête. Là. Quand je lis ce verset-là, quiconque. Mais elle a dit... ça me concerne. Le plus grand miracle, c'est quand quelqu'un accepte Jésus dans sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Pas juste, mais elle, si dit, elle représente les symboles de beaucoup de jeunes, musulmans, pas musulmans. Catholiques, protestants, ça ne sauve pas. Hein. C'est ceux qui acceptent Jésus. Vous comprenez, vous pouvez porter le nom que vous voulez. Moi, le protestant, c'est juste pour un repère dans le monde dans lequel je vis. Moi, chaque matin, quand je me réveille, je me demande, est-ce que je suis un enfant de Dieu ? Est-ce que je suis en règle avec toi ? Chaque matin, c'est là ma question. Est-ce que je n'ai pas tué la vie par un péché ou par un jugement ou peut-être par quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce qui compte, c'est d'être une fille ou un fils de Dieu. Amen. Alors, le plus grand miracle qui peut exister, mes amis, et qui existe, pas qui peut, le plus grand miracle qui existe, c'est quand Sidi, elle a donné sa vie à Jésus. Amen. C'est quand Emmanuel a donné sa vie à Jésus. Oh ! C'est quand Virginie, à 3 ans, elle a donné sa vie à Jésus. Vous savez, quand on a les dents qui ne vont pas, quelquefois on a mal un petit peu, qu'est-ce qu'on fait ? On va chez le dentiste et puis on répare la dent. Hein. C'est ça, hein ? On répare, ou si on a quelques arbres, vous allez voir ça, on les arrache, puis on donne de nouvelles dents, pour avoir une belle bouche, là, bien parler. Mais ça dure combien de temps ? On répare un membre dans notre corps pour 10 ans, pour 20 ans, d'accord ? Pour 40 ans. Mais la vie éternelle est éternelle. Je n'aurai pas besoin de mes dents au ciel, qui me cassent les pieds quelquefois, ça me fait mal. Tout ça, c'est pour quelques hommes. Je n'avais pas besoin de tout ça. Mais le miracle le plus puissant, c'est que Sidi, elle a donné sa vie à Jésus pour l'éternité. Aurélie, elle a donné sa vie à Jésus. Vous savez, elle n'est pas du tout chrétienne parce que ses parents sont chrétiens. Vous connaissez ses parents ? Ils ne sont pas justes. Hein. Quelquefois, ils sont un peu... difficile. Hein. Ils ne sont pas parfaits. Hein. Vous connaissez ces parents. Ils sont quelque part là. Mais Aurélie, elle a compris qu'un jour, il fallait donner sa vie à Jésus. Elle a donné sa vie. Michael, il a compris. Un jour, il est venu ici. Il s'est dit, il ne faut pas qu'Antoine s'approche vers moi. il était là-bas, fermé. Mais seulement le Saint-Esprit m'a dit, ne le touche pas, donne-lui le temps. Est-ce que Michael est chrétien parce que ses parents sont chrétiens? Je ne pense pas. Il a donné sa vie à Jésus. Parce qu'il a compris. Accepter Jésus, c'est pour l'éternité. Amen. Alléluia. Alors, il y a parmi nous un Josué. Josué, viens un peu là. Il est là pour la première fois. Il me dit, je suis chrétien, mais ça fait 7 ans que je n'ai pas d'église. C'est ça, Josué? Ce n'est pas une critique, mais on essaye de bouger les choses. Alors, Dieu a vu que... Oh! Ben, on va bouger. Hein. Dieu a entendu tes inspirations. Hein. Alléluia. Alors, dimanche prochain, tu seras là avec quelqu'un. Tu viens avec Jacopa. C'est dit, dimanche prochain, tu invites quelqu'un. Mais c'est important, hein, regardez. Allô? Bon, Rénald, dimanche prochain, tu ramènes quelqu'un ici. À la source, là où il y a le rocher. Bon, Ambroise, toi, quand je te vois, tu es capable de ramener quelqu'un dimanche prochain. Tu es capable. C'est bon. On a déjà combien? 1, 2, 3, 4. Qui encore? Qui encore? On va rêver ensemble. On va rêver ensemble. On va rêver ensemble. Il y a la vie au Jésus. Il y a la vie au Jésus. Restez là. Il y a la vie au Jésus. Tu seras renouvelé, changé, transformé. Et tu es une solution pour d'autres. Noémie, tu es pensive. Hein? C'est Noémie ton prénom? Il y a la bagarre dans ta tête, là. C'est ça? On fait un pas ce matin? Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus a pleuré pour toi. Jésus a souffert pour toi, Noémie. Même si tu connais beaucoup de choses, mais Jésus te dit ce matin, viens avec moi plus loin. Tu es prêt? Prête? Viens. Viens avec nous. Que ce soit un miracle le plus grand pour parmi nous ce matin. Si elle combat, Noémie, regardez une belle fille comme ça, et la laisser partir à l'enfer. Moi ça ne va pas. Moi, non. Non. Qu'est-ce que vous pensez? On la gagne pour le royaume de Dieu? On la gagne. On la gagne. Ah, Noémie. Quelques jeunes filles, est-ce que vous voulez vous approcher? Quelques jeunes garçons, est-ce que vous voulez vous approcher de Josué, là? Priez pour lui. Il est jeune, hein? Il a juste 25 ans. Et quelqu'un d'autre, voilà, mais prophétique. Hein? Prophétique avec Sidi, c'est prophétique. Alors, je préfère que ce soit les hommes avec les hommes et les filles avec les filles, et les mecs avec les mecs. Ah, c'est beau, ça. Alléluia. Alors Noémie, regarde, il y a tous ses amis qui sont là. Regarde, elle est belle, hein, parce qu'elle a Jésus, tu vois. Et Noémie, tu connais Aurélie, donner sa vie à Jésus. Est-ce que tu donnes sa vie à Jésus, Noémie, ce matin? Bon, on va prier pour toi. Comme ça va t'encourager. D'accord? Ça ne brûle pas. Mais au moment aujourd'hui, tu fais un pas, tu vois, tu es protégé. Et tu prends le temps, si c'est dans une semaine, mais pendant une semaine, tu es protégé. Tu vois? Si c'est 2 semaines, tu es protégé. Si c'est dans 1 mois, tu es protégé. Tu vois, tu as une assurance. Parce que Dieu te donne aussi le temps. Est-ce que vous pouvez prier ensemble? Encouragez, donnez l'air en vide. On va se lever ensemble. On va se lever ensemble. Alléluia, Jésus. Seigneur de gloire. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Guillaume. Ah ben je le savais que... Pour soutenir? D'accord. Alléluia. Merci Jésus, madame. Madame, vous êtes travaillée. Hein? Je sens vraiment, c'est fort. Hein? Madame, c'est comment votre prénom? Comment? Florence, vous êtes venue déjà une fois. C'est pour ce matin. C'est un rendez-vous divin pour vous. Vous voulez aller plus loin avec nous? Oui? Venez. On va prier pour vous. Oh, merci Jésus. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà donné votre vie à Jésus? Mais il faut donner votre vie à Jésus comme Corneille. Vous êtes comme Corneille. Vous acceptez Jésus dans votre cœur. Merci Jésus. Et votre prénom? Florence accepte Jésus dans sa vie ce matin. Elle accepte. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alors tu dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. J'ai besoin de toi. Seigneur, à partir de ce matin, prends soin de moi. Merci Jésus parce que tu m'acceptes. Tu m'accueilles. Tu me pardonnes. Merci Jésus. Alléluia. Alors Reynald et Madame Reynald, est-ce que vous voulez venir prier pour cette dame-là? Alléluia. Je vais demander à Marie. Est-ce que Marie, tu veux venir? Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Alors, Noémie, tu vois, Marie, il n'y a pas longtemps, elle a donné sa vie à Jésus. Elle est heureuse. Elle est venue t'encourager. Voilà. Passez un moment ensemble. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Prions pour toutes ces personnes. Voilà, croyons que Dieu est vivant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alors Jean-Jacques, le Seigneur fait de toi des flèches. Comme une flèche. Je vois une flèche. Des flèches. Qui vont atteindre des endroits difficiles. Est-ce que tu crois? Alors, dimanche prochain, tu viens avec quelqu'un. Fred, est-ce que tu veux prophétiser sur lui? Ah, bah, c'est comme ça. Lance-toi. Hein. Ça ne va pas se faire tout seul. Prie avec lui. Prie avec lui. Merci, Jésus. C'est Alex?
Michael.
Ah, Seigneur, tu bénis mon cœur. Alléluia. Je voyais vraiment la lumière sur toi, tu vois. Et cette lumière, tu vas diffuser plus loin. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi. Oh Seigneur, c'est toujours là, combat. Continuons. Continuons dans la prière, les uns avec les autres. Alors mon copain, je pense que c'est ton moment ce matin. Hein? Tu as quel âge? Ah bah tu sais, il n'y a pas longtemps, j'avais 18 ans. Ah oui, j'étais rebelle, je voulais pas. Je suis devenu prédicateur. Tu te rends compte?
Ouais, c'est vrai.
Tu veux donner ta vie à Jésus?
Moi, je l'ai déjà donné.
Bon, maintenant, on va relancer. Ça va? Parce que c'est un peu flou, hein?
Non, ça va.
Ça va? Viens avec les jeunes. Tu vois avec le bec là-bas. Voilà. Prie ensemble. Pour le relancer un peu plus. Il peut donner plus qu'il a. Oh! Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Te bénissant, proclamant ta Seigneurie, Jésus. Oh Jésus, merci. Alléluia. 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 Alors Julien, tu fais un pas ce matin? Ouais. Je t'encourage. Ouh. Là, je vois les jeunes. Alléluia. Il a besoin d'être soutenu. Hein. Alors, les jeunes, venez là-bas ensemble. Venez ensemble. Alors, Michael, tu dois donner maintenant. Donnez. Alléluia. Voilà, alors, regroupez-vous ensemble. Michael, prions. Alléluia, Jésus. Allez, frère, pas de repos. Ambroise, est-ce que tu veux prier ensemble? Colline, viens prier pour tous ces jeunes. Prie en américain, c'est pas grave, Dieu comprend. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, merci. Alors, pour ceux qui veulent, vous pouvez vous approcher, entourer toutes les personnes et prier ensemble. Va prier.
La semaine dernière, le Seigneur disait c'est le phare pour les nations. Et ici, tu sais ce que je voyais au-dessus de chaque cercle, c'était les anneaux olympiques. Toutes les nations étaient représentées encore à nouveau. Le Seigneur te dit ça. C'est vraiment une église internationale.
Ouais.
C'est les Jeux olympiques.
Amen.